Et les services spécialistes des explosifs auraient réduit le risque ce matin. Ça fait beaucoup dans la ville de Madrid et peut-être n'a-t-on pas encore tout découvert. Il faut savoir que il y a des équipes judiciaires qui sont déplacées partout. 9 équipes judiciaires sont sur le terrain pour essayer de récolter le maximum de choses pour ensuite essayer d'avoir une thèse plus probable que celle qui a été donnée ce matin.
N'empêche, Antoine, je le disais, le ministre espagnol de l'Intérieur vient d'intervenir à nouveau et pour lui, c'est ETA, il n'y a aucun doute.
Pour lui, il n'y a aucun doute. Il a cité ETA. Il a rappelé qu'à 4 reprises ces derniers temps, les ETA avaient tenté de faire des attentats et ça avait été frustré par l'intervention des services de sécurité, que ce soit la Guardia Civile, la police espagnole, mais aussi la police française ou la gendarmerie française. Il a montré du doigt ETA, disant c'est ETA, mais d'autres spécialistes, notamment de la lutte antiterroriste, posent un gros point d'interrogation sur cette opération visiblement de très grande envergure qui a été montée et surtout sur ce modus operandi de plusieurs explosions presque organisées au papier millimétré avec une succession d'explosions faisant le plus de morts possible.
Effectivement, merci Antoine de Galzin. Il faudra sans doute attendre pour tenter d'en savoir plus. Ces attentats se sont donc produits à 3 jours des législatives. La plupart des partis ont d'ailleurs annoncé qu'ils suspendaient leur campagne. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Il a appelé les habitants à se rassembler pour dénoncer le terrorisme. Des manifestations sont déjà en cours. Beaucoup de réactions à l'étranger après ces attentats qui sont les plus meurtriers que l'Union européenne ait connus. Que ce soit à Paris, à Berlin, à Londres, partout on dénonce ce carnage. En France, des mesures de sécurité renforcées ont été prises à la frontière franco-espagnole au Pays Basque. La police de l'air et des frontières et la garde civile espagnole procèdent au contrôle systématique de tous les véhicules et de tous les piétons qui passent la frontière. Nous reviendrons bien sûr tout au long de l'après-midi dans les flashs sur ces attentats de Madrid. Notez déjà qu'il y aura une édition spéciale consacrée à ces événements entre 18h et 20h ce soir sur France Inter. Nous verrons dans un instant si on réagit à ces événements à la Bourse de Paris. Sachez également que les clubs espagnols engagés en Coupe de l'UEFA ont demandé le report des matchs prévus ce soir compte tenu des circonstances. Mais l'UEFA a annoncé que les rencontres étaient maintenues. Les joueurs porteront des brassards noirs. Dans le reste de l'actualité, il y a une nouvelle journée d'action dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les personnels protestent une fois de plus contre le manque de moyens dont ils disposent et ils dénoncent le plan Hôpital 2007. Les manifestations étaient prévues un peu partout à Paris. Le rassemblement est en cours, place de la Bastille. Un centre anti-cancer sera construit sur le site de l'usine AZF à Toulouse. C'est ce qu'a annoncé ce matin Jean-François Mattei. Le ministre de la Santé précise que ce centre s'inscrira dans le cancéropole du sud-ouest de la France. Dans un instant, la Bourse de Paris.
La Bourse, avec la robinetterie Amel, robinetterie sanitaire des professionnels.
Alors les places boursières ont réagi bien sûr aux attentats de Madrid. J'imagine, Claire Maté, que c'est également le cas à Paris.
Oui, tout à fait, Claire. Toutes les places européennes sont touchées, d'autant plus que les marchés financiers sont aussi pénalisés par le fort repli de Wall Street hier. Le CAC 40 est d'ailleurs en ce moment en repli de 2,73% à 3655 points et dans de forts volumes. Plus de 4 milliards d'euros ont déjà été négociés. Sur les autres places européennes, comme je vous le disais tout à l'heure, la tendance est aussi à la baisse. L'euro First 80 recule de 2,71%. Et un petit mot sur Madrid, moins 2,08%. Sur le marché des devises, l'euro vaut 1,2263 $. Sur le marché de l'or, à Londres, l'once d'or vaut 397,40 $. À Paris, le lingot cote 10 490 € et le napoléon 60,40 €. Je vous rappelle donc le CAC 40 en très forte baisse, moins 2,73% à 3655 points. À la Bourse de Paris, Claire Naté pour France Inter.
Merci Claire, il est 14h07. Vous écoutez France Inter, 14h07. Il est donc grand temps de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
Bonjour Claire. Vous nous interrompez bien sûr s'il y a du nouveau en Espagne. Aujourd'hui, dans 2000 ans d'histoire, la France des années 60.
Je me souviens au total d'une décennie heureuse qui consacrait notre renouveau, un à peu près fort honorable, dont le temps passant, on se souviendra sans doute comme d'un paradis perdu. François Bloch-Léné.
D'histoire. Pour Pour tous ceux qui sont en âge de s'en souvenir, les années 60 ont sûrement été les plus belles années du XXe siècle. Après la guerre, l'occupation et la reconstruction des années 50, après la fin des tickets de rationnement en 1949 et les 100 logis de l'abbé Pierre, au moment où se terminait la guerre d'Algérie, tout devenait possible. La télévision, la machine à laver entraient dans tous les foyers, la voiture était accessible à presque tous. Gilbert Bécaud nous faisait rêver à Orly en attendant le premier vol du Concorde et les premiers pas de l'homme sur la Lune. C'était l'époque où les yéyés dansaient le twist au golfe de Rouault sans savoir qu'ils seraient les premiers Français de l'histoire à ne plus connaître la guerre.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires.
La conclusion du cessez-le-feu en Algérie, ce qui va être entrepris pour tirer d'une lutte déplorable les chances d'un avenir fécond est due au peuple français, car c'est lui qui a permis que mûrisse puis aboutisse la solution. Vive la République ! Vive la France !
Jean-Pierre Rioux, bonjour.
Bonjour.
On entend Apache, les Shadows, un succès au début des années 60, à l'époque où le général de Gaulle, on vient de l'entendre, annonçait la fin de la guerre d'Algérie. Une décennie, ces années 60, dont vous parlez bien sûr dans votre livre, Au bonheur la France, des impressionnistes à De Gaulle, comment nous avons su être heureux. Alors un livre qui porte sur les 70 premières années du XXe siècle, comment est-ce qu'on peut dire, Jean-Pierre Rioux, que les Français ont pu être heureux avant les années 60? Ils ont quand même connu deux guerres mondiales, la crise des années 30, l'occupation, les guerres d'Indochine et d'Algérie.
Certes, mais la première vertu de ce peuple est peut-être d'avoir su traverser cela à la fois à peu près honorablement et ensuite d'avoir su un peu sécher ses larmes et retrousser ses manches. Autrement dit, il n'y a pas de fatalité du malheur dans l'histoire des peuples et il y a toujours des moments où transpercent des éclats de rire du bonheur ou des aspirations communes qui font qu'on a envie de progresser ensemble vers un mieux-être.
Le bonheur, même dans l'adversité, cela oui. Dit, à partir des années 60, c'est le bonheur dans la consommation, dans la production. La production grimpe en flèche à ce moment-là. Il y a des taux de croissance dont on rêverait aujourd'hui, environ 6% par an pendant toutes les années 60.
Oui, pas tout à fait. Enfin, il y a des gens qui ne se partagent pas tout le gâteau. Les inégalités existent encore, elles progressent même... Parfois, mais c'est vrai que ces années 60 sont une espèce de parousie, de point d'orgue, de moment fort, de ce qu'on a appelé, ce que Jean Forastier a appelé les 30 glorieuses, comment ce pays, en 30 ans depuis la libération, donc de 1945 à 1975 grossièrement, s'est lancé dans la modernisation et le développement économique d'abord, mais social et culturel aussi. Et là, c'est vrai qu'il y a des taux flatteurs qui nous laissent rêveurs aujourd'hui, c'est en gros 5,5% par an de croissance de la production intérieure brute et avec en gros des revenus, des salaires et des pouvoirs d'achat qui galopent à 4,5% de croissance par an.
Alors oui, parce que vous le dites, tout le monde n'en profite pas de la même manière, mais tout le monde en profite, se rue sur des produits qui nous paraissent d'une banalité rare aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas. Vous en citez deux notamment, c'est la voiture et la télévision. La télévision, on l'oublie, elle est née dans les années 40, mais jusqu'à la fin des années 50, très peu de Français pouvaient en disposer.
Exactement, et les années 60 ne sont loin de parachever l'équipement complet, puis donc au début des années 70, il y a à peu près 3 ménages sur 4, 73% très exactement. Exactement, qui possède un téléviseur. Mais effectivement, la bagnole, si j'ose dire, et la télé, car on va inventer les deux termes argotiques, si je puis dire, où les deux raccourcis de bonheur sont vraiment les deux objets d'équipement lourd que les ménages veulent à tout prix s'offrir.
Et puis ils sont contents à vous rappeler que bien qu'il y ait une chaîne unique, mais bien qu'ils aient une chaîne unique, jusqu'à la fin des années 60, il y avait une seule chaîne, une chaîne d'État, sur quoi, ils sont contents des programmes. À 90%, ils sont ravis, ils sont plantés devant leur télévision.
Absolument, parce que c'est une télévision aussi qui est bien sûr d'abord de distraction, mais qui n'a pas oublié encore, j'allais dire, ces aspects un peu éducatifs.
Alors on reste aussi, en revanche, très en retard dans le domaine du téléphone. En revanche, les années 60, c'est aussi l'essor des appareils ménagers qui entrent dans tous les foyers, surtout les réfrigérateurs, les machines à laver, et puis aussi les fours encastrables qui sont la vedette du salon des arts ménagers où les journalistes s'extasient devant les appareils les plus modernes avec des commentaires qui ne le sont pas. Écoutez.
Le silence est aujourd'hui un élément de confort parmi tous ceux que nous propose le 35e salon des arts ménagers, placé sous le signe du moindre effort. Aujourd'hui, le four de la ménagère est à hauteur de travail. L'ouvre-boîte électrique a enfin résolu un des problèmes les plus ardus de la maison. L'art ménager est en effet devenu l'art de se ménager. Le confort domestique tend à devenir une religion de masse. Mais la fréquentation des restaurants universitaires ou des cantines d'entreprise ne risque-t-elle pas de minimiser aux yeux des jeunes filles leur futur rôle de maîtresse de maison? On peut être très forte en chimie et ne pas savoir se faire cuire un œuf. L'enseignement ménager pallie, heureusement, cette carence redoutable. Il essaie de sauvegarder ses qualités féminines, dont la disparition ôterait à la vie masculine une grande part de son agrément.
C'était James Brown en 1961, It's a Man's World, un clin d'œil de notre réalisatrice Anne Kobilac qui a beaucoup ri comme nous en entendant ce journaliste macho au salon des arts ménagers de 66. Il a bien raison, James Brown, Jean-Pierre Rioux, le monde des années 60, c'est un monde moderne, mais c'est un monde d'hommes. Les femmes, par exemple, la pilule n'existe pas, et les femmes,
non,
à la cuisine.
Non, non, et c'est même au cœur des années 60 qu'on commence à mettre en termes de dispositifs publics l'idée que peut-être offrir une contraception possible, à partir de la loi Neuwirth, mais...
67,
très, 67, et très significativement, les décrets ou les procédures d'application de la loi Neuwirth vont traîner. Il faudra attendre après 68 pour que les choses avancent, oui. Bien entendu, mais il ne faut pas non plus être trop... Il faut bien noter quand même que c'est l'équipement du ménage, peut-être aussi pour non pas libérer la femme, qui peut prétendre libérer ainsi, bien sûr, mais aussi pour peut-être aussi commencer à les remettre, si je puis dire, au travail extérieur, hein, et dans une lente progression qui aboutit aujourd'hui, si vous voulez, au fait que nous retrouvons aujourd'hui en taux d'activité féminine le chiffre exact de 1911. Et donc peut-être ces années 60 sont un moment où la courbe commence à s'infléchir. On les équipe en robots ménagers ou en réfrigérateurs et en premier lave-vaisselle pour qu'elles puissent travailler.
Au travail ou dans les supermarchés.
Travailler davantage.
Ou dans les supermarchés qui se multiplient, vous le rappelez, car oui, c'est à l'aune de la consommation que se mesure le bonheur des Français, à toutes les choses, comme l'écrit Georges Perec, dont ils disposent chez eux, la revue de texte Stéphanie Duncan.
L'œil, d'abord, glisserait sur la moquette grise d'un long corridor, haut et étroit. Alors c'est par ces mots, par cette vision d'un intérieur propre, moderne et un peu froid aussi, que commence le livre de Georges Perec, publié en 65, « Les choses, histoire des années 60 ». En 65, quand un journaliste, visiblement troublé par ce drôle de livre, demande à l'auteur qui vient de recevoir le prix Renaudot « Les choses, qu'est-ce que c'est ?», Perec répond « Cela raconte l'histoire d'un couple dans les années 60. C'est l'appel publicitaire pour des tas de choses qui empêchent de vivre d'une manière simple. » Alors le roman commence donc par cet œil qui se promène dans l'appartement nouveau riche années 60, rempli de tas de choses. L'œil d'abord glisserait sur la moquette grise d'un long corridor, haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair dont les ferrures de cuivre luiraient. Au bout du couloir, poursuit Perec, ce serait une salle de séjour longue de 7 mètres environ, large de 3. À gauche, dans une sorte d'alcôve, un gros divan de cuir noir. Au-delà d'une petite table basse, un autre divan conduirait à un petit meuble haut sur pied, garni de 3 étagères qui supporteraient des bibelots. Des agates et des œufs de pierre, des boîtes à priser, des bonbonnières, des cendriers de jade, une coquille de nacre, une pyramide de cristal, une miniature dans un cadre ovale. Bon, je m'arrête, la liste est trop longue. La vie, là, serait facile, serait simple, écrit Perec. Mais qui donc habite cet appartement? Alors, ce n'est qu'au chapitre 3 que Perec nous dit leur nom. Jérôme avait 24 ans, Sylvie en avait 22. Ils étaient tous deux psychosociologues. Ce travail consistait à interviewer des gens selon diverses techniques sur des sujets variés. Alors, les sujets variés, les voici, hein, révélateurs de la nouvelle société de consommation. Pourquoi les aspirateurs traîneaux se vendent-ils mal? Que pense-t-on dans les milieux de modeste extraction de la chicorée? Aime-t-on la purée toute faite? Et pourquoi? Parce qu'elle est légère, parce qu'elle est onctueuse, parce qu'elle est si facile à faire, un geste, et hop! Comment votera la française? Aime-t-on le fromage en tube? Que pensent les cadres? Que pensez-vous de votre machine à laver? Rien de ce qui était humain ne leur fut étranger. Alors, Jérôme et Sylvie se mettent donc à gagner de l'argent et à consommer. Encore une liste de choses qui donne le vertige. Antiquaires, libraires, marchands de disques, restaurants, agences de voyage, chemisiers, tailleurs, fromagers, chausseurs, confiseurs, charcuteries de luxe, papetiers, leurs itinéraires composaient leur véritable univers. Là reposaient leurs ambitions, leurs espoirs. Là était la vraie vie.
Un commentaire sur ces textes, Jean-Pierre Rioux. La consommation, c'est vraiment la religion des années 60.
Si l'on veut, oui, oui, au moins pour la grosse masse de la population qui a les moyens de consommer. Et de consommer, il faut y insister, l'offre est multiple. Elle est non seulement démultipliée, mais elle est multiple. Il n'y a pas seulement les hypermarchés. Il y a le fait que vous pouvez consommer quantité de choses. Soit vous êtes consommateur moderne, comme ces jeunes gens des choses de Perec, décrit en 65, soit vous êtes consommateur ringard, si je puis dire, anémique, que le saucisson sec, ou etc. Et ben vous pouvez le faire. Même chose en consommation culturelle. Et notamment musical, où on vous offre tout, tout à la fois, l'accordéon et Johnny.
Hein. Une religion contestée quand même, c'est ce qui va se provoquer en 68 les fameuses barricades de 68. Au fond, c'est d'abord une révolte contre la consommation. On était étonné de voir que pour la première fois dans l'histoire, on ne se révoltait pas pour avoir du pain parce qu'on n'en manquait pas. On se révoltait contre la société de consommation, Jean-Pierre Rieux.
Oui, c'est peut-être un résumé
un peu
hardi de 68.
Les 68 mériteraient une émission à toute seule.
D'autres causes profondes, et d'abord les problèmes étudiants au départ, et la réforme de l'université, au moment où l'université commence à se massifier, tout comme tout l'enseignement est en train de se massifier au début des années Pompidou, à l'extrême fin des années 60, on va se mettre à construire un collège par jour dans ce pays. Donc là, il y a, dans les années 60, bien sûr ces choses qui vous arrivent et qu'on consomme, et déjà le début de l'inquiétude, et c'est celle de 68, comment on passe des choses à l'être, comment on va dépasser cette consommation. Et là, c'est un des tréfonds de 68.
Cela dit, en attendant de monter sur les barricades, les jeunes des années 60 préféraient se retrouver au golfe Drouot, ou écouter sur Europe 1, une émission célèbre de Franck Thénault et Daniel Filipacchi.
Salut les copains!
Certes, la jeunesse qui monte a toujours des fourmis dans les jambes, mais à l'entassement des caves enfumées, elle préfère l'ambiance plus fleur bleue du golf Drouot, où les Johnny Hallyday, en puissance, viennent tenter leur chance. Le mal du siècle, la James Dean, est mort avec les idoles d'hier. Les copains s'amusent sans arrière-pensée, expérimentent scrupuleusement toutes les danses nouvelles qu'on leur propose. Qu'est-ce qui plaît le plus aujourd'hui?
Le twist, naturellement.
Venez les copains, tapez les mains, oui. On va faire le twist. C'est le nouveau arc, rien n'y résiste. N'hésitons pas, faites comme moi. J'y vais bien même pas. Rythme le twist, oui. Dans le voilà, main là. Et tu t'y prends bien. Continue comme ça. Un tour autour de moi. Balance encore tes bras. Et bien sûr mon cœur. Et rythme le twist. Yeah. Ah, tourne bien, oui, tourne bien encore. Mais en dansant, n'oublie pas, n'oublie pas que je suis là. Tout en rythme le twist. Yeah. Entre tes bras. Ouais, mon cœur va pour toi.
France Inter, 2000 ans d'histoire, les années 60, hier.
Yeah. Jean-Pierre Rioux, si un chanteur français a incarné les années 60, c'est bien Johnny Hallyday. Vous dites même d'ailleurs que son premier disque, le 14 mars 1960, au tout début donc de cette décennie, c'est un des quatre événements qui ont marqué les années 60.
Oui, en tout cas, au printemps 1960, le phénomène Johnny commence et il va durer quand même près de 45 ans, hein, du coup. Nous parlions de la diversité de l'offre culturelle. C'est très typique. Bien sûr, il y a le yéyé et la vague qui va balayer beaucoup de chanteurs plus classiques et d'autres types de musique. Mais voyez ce qu'on offre à ce printemps 1960. Alors, Johnny se lance. Il va être surtout lancé quelques semaines plus tard par l'émission de télévision d'Aimé Mortimer. L'école des vedettes.
100 000 exemplaires de son disque, hein, c'est exceptionnel.
Le petit vinyle d'école, n'est-ce pas? Alors là, il chante T'aimer follement, etc. Puis alors, au même moment, quand même, vous avez Marie-Marie de Gilbert Bécaud, vous avez Il n'y a plus d'après de Guy Béard, vous avez, alors là, on tombe vraiment dans la catégorie, c'est pas les têtes de gondole, n'est-ce pas? Bob Hazan, fais-moi le couscous, chérie.
Vous avez aussi.
Il y a une offre considérable, hein, et très variée. Le cher Johnny tire son épingle du jeu avec T'aimer follement, repris aussitôt par Dalida d'ailleurs.
Vous avez aussi, vous le citez, d'ailleurs, parmi les quatre événements des années 60, quelqu'un qu'on aime bien ici, le Pop Club de José Arthur.
Absolument, absolument. Alors, je pense pas que c'est un péché de jeunesse que de dire ça. Je pense qu'objectivement, après le premier choc de Salut les copains, eh bien, le cher Pop Club de José Arthur, première émission, si je me souviens bien, le 4 octobre 1965, a été extrêmement important, dès lors aussi que c'était sur une chaîne publique. Mmh. Et il faut le dire.
Autre événement, alors là, ça m'a un peu plus étonné. Bien sûr que c'est important, mais c'est la nouvelle vague, hein, 60, ouais. C'est à bout de souffle de Godard. Or, vous rappelez qu'à la même époque, la fréquentation des cinémas, elle baisse.
Oui, elle baisse, elle chute même de moitié. Hein, dans la décennie des années 60, on n'est plus dans les très hautes eaux de millions et de millions de spectateurs qui vont voir la dernière séance le samedi soir, n'est-ce pas, et en famille si possible. On passe à une pratique du cinéma beaucoup plus sélective, et la nouvelle vague a fait beaucoup pour arriver à cette pratique un peu plus cinéphile des choses. Et nos jeunes gens des choses de tout à l'heure, il est sûr qu'ils se sont délectés à bout de souffle. Mmh. Ça va de soi.
En tout cas, les salles de cinéma étaient sûrement désertes la nuit où s'est produit l'événement qui restera toujours dans les mémoires de ceux qui l'ont vu et vécu à la fin des années 60, celui que les Français ont partagé avec 600 millions de téléspectateurs sur tous les écrans de télévision du monde. C'était à 3h56, heure française, le 21 juillet 1969.
On aperçoit une fraction du sol lunaire, je pense que c'est cela. Il y a une zone très claire qui barre une zone d'ombre. Et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle.
L'image a changé maintenant. Elle semble avoir été inversée, ça c'est curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Il faut un temps infini, semble-t-il, à ce pied pour atteindre le barreau suivant. C'est fait.
I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
C'est un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité. Tout le monde se souvient, Jean-Pierre Rioux, de ces mots d'Armstrong mettant le pied sur la Lune. C'est vraiment extraordinaire parce que je crois que dans une vie, enfin, tout le monde, tous ceux en tout cas qui ont vu ça à la télévision se souviennent de l'endroit précisément où il se trouvait à l'extrême fin des années 60, en 69.
Mais oui, par rapport à d'autres événements monstres comme par exemple le 11 septembre 2001 où là c'était à des heures ouvrables, si je veux dire. Là, on pouvait se préparer puisqu'on savait à la avance que ça serait vers 3 heures du matin.
10 millions de postes allumés. Hein,
10 millions de postes allumés.
EDF a songé à faire marcher des barrages qui ne fonctionnaient pas la nuit.
Le lendemain matin, l'EDF a un peu paniqué, voyant tout ce qui avait été tiré en électricité dans la nuit. Mais enfin, tout s'est arrangé, rassurons-nous. Non, c'est le premier grand événement contemporain, finalement, le débarquement sur la Lune, parce que, comme le dit Pierre Nora, il y a l'instance du réel, oui, on voit et on télévise, si je puis dire. Bon. Deux, c'est la vraie instance d'information, et c'est au même moment la même instance de consommation. L'événement, il est à la fois, il se produit, il est médiatisé et il est consommé en même temps, et ça fait ce qu'on pourrait appeler l'événement monstre.
Et puis il est mondial, hein, surtout.
Et il est mondial. Autrement dit, la mondialisation d'aujourd'hui, on a quand même quelques pratiques depuis un siècle et depuis ces années-là. En particulier.
À lui seul, au fond, il résume un peu, alors qu'on se trouve à la fin de ces années 60. Ces années 60, au fond, c'est tout est possible, y compris le plus vieux rêve de l'humanité, mettre le pied sur la Lune.
Oui, et c'est assis sur un formidable développement scientifique, technologique et économique qui fait que la société française s'est vraiment alignée sur cette mondialisation par le progrès technique et économique qui a dérivé en progrès social et progrès culturel.
Et c'est à ce moment-là que se termine votre livre, oui. Jean-Pierre Rioux. Oui. Pas comme si, au fond, depuis 70, les Français ne savaient plus être heureux. Pourquoi ? C'est la crise qui vient
les La donne a changé. Et d'abord, c'est vrai que le gâteau s'est mis à ne plus grossir. Donc, comment se le partager plus heureusement, c'est une question de fond. Et les rapports aux valeurs, les rapports au travail, les rapports à la liberté individuelle ont évolué. Et donc, dans une conjoncture tout à fait nouvelle, eh bien, les vieilles marques de bonheur anciens ont peut-être été un peu effacées, mais je ne suis pas certain qu'elles aient disparu. Sinon, je n'aurais pas fait ce livre.
Et puis 69, c'est aussi le départ du général de Gaulle. Après, oui. Les années 60, c'était les années Johnny, mais c'était aussi les années de Gaulle. Et vous dites qu'à partir de ce moment-là, avec de Gaulle, c'est un peu une autre idée de la France que se font les Français. D'abord, ce n'est plus la grandeur, c'est une France qui est devenue une puissance moyenne, comme le disait Giscard, une France repliée sur elle-même depuis ces époques-là.
Oui, et puis une France qui perd un peu le projet. Évidemment, de Gaulle a d'abord été un chef de guerre, donc premier coup réussi à partir du 18 juin 40, deuxième coup quand même, avec l'appui des Français, considérable des Français, à plus de 80%, la fin de la guerre d'Algérie. Alors là, il y a évidemment un temps de latence, on entre dans une ère de paix qui fait que les ambitions nationales, une fois que de Gaulle a aidé à les exprimer une nouvelle fois, commence à flageoler un peu plus, et c'est la grande question. Partant de déprime économique, sociale et culturelle, comment on formule un avenir heureux pour un peuple ?
Un avenir, vous parlez d'avenir, parce que c'est vrai que au fond, Armstrong sur la Lune, on a l'avenir fait envie, et maintenant il fait peur, les événements qui se passent en ce moment en Espagne et dans le monde.
Exactement, mais je pense que là encore... il n'y a aucune fatalité du malheur dans la vie des gens, dans la vie des peuples, et donc pourquoi ne pas espérer ? Je crois très profondément que dans ce siècle de bonheur que la France a connu et pas tous les Français, bien entendu, dans ce siècle-là, il y avait bonheur parce qu'il y avait espoir dans l'avenir. Espoir dans un lendemain.
En tout cas, un siècle que l'on retrouve dans votre livre, Jean-Pierre Rioux, qui est très agréable à lire, Au bonheur, la France, des impressionnistes à De Gaulle, Comment nous avons su être heureux, un livre